Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois un artiste peintre qui expose à la salle des colonnes de Nogent-le-Rotrou du 15 au 24 septembre. Pierre Chabin, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, vous êtes originaire de Nogent-le-Rotrou, très attaché aux perches, puisque vous y avez de nombreux amis. Je sais aussi que vous avez fait des tableaux sur les maisons, sur les propriétés de Nogent-le-Rotrou et du Perche. Alors, cette invitation que j'ai reçue pour le vernissage comporte une fort jolie photo et les mots aussi qui sont inscrits sur cette invitation. Surtout, ne l'écoutez pas car il ment. Alors, j'aimerais bien que vous nous donniez d'abord cette histoire de cet homme et puis ce qu'il veut dire. J'aime beaucoup d'ailleurs cette peinture. Alors, dites-nous tout.
Bien, il se trouvait que j'étais en vacances. Il y avait donc une coupure dans l'évolution de mon travail de chaque jour.
Oui.
Et puis, j'étais en vacances et on m'avait prêté un petit local.
Où étiez-vous ?
Et j'étais en Normandie, dans le Cotentin Est.
Dans le Cotentin Est,
voilà,
oui.
C'est là où je vais souvent, depuis fort longtemps.
Vous y avez des attaches familiales ?
Non, mais de très longues années. C'est pour 60 ans que je vais me promener là-bas.
Oui.
Et bien, j'aime beaucoup la mer. J'ai moi-même un bateau et bien, j'en profite d'être sur la terre et vu de mer de mon bateau, ce qui est tout à fait autre chose. Et puis, quand on est en vacances, l'esprit devient plus dilettante.
Oui.
On m'avait prêté un petit local, pour tout dire, un bungalow au
oui.
bord de l'eau.
Oui.
Et puis, bien, je me suis mis, j'avais amené quelques toiles, à peindre ce personnage, mais en toute fantaisie. C'est-à-dire que j'expliquerai peut-être un peu plus loin comment
oui.
L'inspiration me vient, mais je vois des peintures naître toutes finies dans mon esprit. Et puis, bien, je cours après, j'essaie de les reproduire, parce que le choc que j'ai eu, je les vois. Et je ne sais pas pourquoi ce personnage m'a apparu. Il avait les mains telles que je les ai peintes, et il me semblait rempli de taquinerie, surtout.
Oui, c'est ça. J'aime beaucoup ses yeux et ses mains, effectivement. Et aussi, ce visage, à quel peintre vous avez pensé ? Parce que je pense qu'il y a un autre peintre derrière cette peinture-là.
Oui, on a toujours des pères. Hein. Dans l'évolution de ma peinture, j'ai des pères profonds qui ne se sentent pas forcément là, qui serait pour commencer Rembrandt, ensuite Corot, ensuite Cézanne. Et puis, plus par passage, j'ai été atteint à un moment donné d'une forte admiration pour Modigliani, ce
ouais.
qui explique un peu ses yeux. Mais ils ne sont pas tout à fait comme Modigliani les a fait, parce que Modigliani, c'était presque systématique que ses yeux aient devenu aveugles, en quelque sorte.
Mmh.
Mais là, il plisse les yeux de malice. Alors, quand on a les longs cils et qu'on plisse les yeux, on ne sait plus très bien où c'est la prunelle des yeux, hein, elle disparaît.
Oui, on peut dire ça. Et son costume, alors, vous évoquez quelle époque ?
Oh, il n'y a pas d'époque, là. C'est un farfelu, hein. Est-ce un clown ? Je l'ai appelé, ce personnage, le bonimenteur. C'est-à-dire, il raconte des boniments. Alors, il ne peut pas être habillé comme tout le monde.
Exactement.
C'est pour ça que j'ai dit, méfiez-vous-en, ne serait-ce que de le voir, ça pourrait suffire. Peut-être que le texte est déjà trop.
Alors, j'aimerais bien que nous en revenions à vos origines. Je sais que vous êtes né à Nogent-le-Rotrou. Alors, à Nogent-le-Rotrou, comment se fait-il que Comment vous est venue cette idée, ce désir de peindre?
Ah ben là, c'est une grande histoire. Bon, j'avais mon papa qui était peintre de la ville de Nogent-le-Rotrou, mais un excellent artiste, en quelque sorte. Je voudrais souligner, entre parenthèses, c'était un peu son rêve, c'est lui qui est l'auteur d'avoir peint la salle du conseil de la mairie à Nogent en faux bois. C'est admirable. Mon papa était déjà profondément artiste et il faisait de la peinture en amateur. Je guettais ça depuis mon enfance. J'admirais ce qu'il faisait. Et puis, à la fin de la guerre, mes grands-parents étaient d'Angers. À l'époque, Nogent-le-Rotrou, Angers, c'était une grande distance. Et on a réussi, à la fin de la guerre, à aller rendre visite à mes grands-parents, donc les parents de mon père. Et alors là, mon père, quand il était jeune, il était, lui, d'Angers. Il allait très souvent au musée des Beaux-Arts d'Angers, pour s'imprégner de toutes les peintures qui étaient exposées et ensuite essayer de faire au mieux. Alors, il a voulu aller au musée d'Angers, puis m'a emmené. J'avais donc 12 ans à cette époque-là. Et je suis tombé ébahi devant une énorme toile.
De qui ?
Il n'y avait pas de mystère. Alors, de qui, je ne sais pas. D'un célèbre inconnu, ça c'est sûr. Il n'y avait pas de mystère, c'était un général fougueux monté sur son châle qui jetait son épée en l'air, que je sache, car devant l'ennemi, il devait se rendre. Et sous les pattes des chevaux, on voyait la guerre qui continuait, on l'entendait, les coups de canon, le vague. C'était rempli. Alors, moi, je me suis approché de près pour voir de ce qui se passait, enfin, en tant qu'au bout du pinceau. Et il y avait, prendre la flamme plus vive, la fougue des chevaux et tout ça, des coups de pinceau fulgureux. Alors, eh bien, je comprenais tout. Mais tout ! J'avais, pour moi, je voyais comment c'était peint. J'avais une révélation, j'ai eu un coup de foudre immédiat, c'est rentré dans mon âme, je serai peintre. Alors évidemment, quel fardeau ! Je n'allais pas dire ça à mon papa et à ma maman. Il n'aurait jamais voulu. Voilà le début du commencement.
Très bien. Et alors, vous êtes resté à Nogent-le-Rotrou
Alors, ensuite, j'ai fait tout doucement comprendre que le dessin, ça me plaisait bien. Mon papa et ma maman pensaient que le dessin industriel m'irait bien. Je pense qu'ils ne voulaient pas comprendre.
Oui, ils s'étaient dit, il faut...
Et ils ne voulaient pas comprendre, mais j'avais quand même eu... Je me souviens plus très bien comment. Une petite boîte de peinture à l'huile. Ça, c'est important. C'est noble.
Oui.
Et j'ai osé en cachette, mais avec de l'orgueil suprême d'être sûr de réussir, faire le portrait de mon grand-père. Il était infirme, il ne bougeait pas, il avait donc tout son temps pour poser. Et j'ai fait le portrait de mon grand-père, qui lisait le journal, le Nogentais à l'époque, avec sa pipe, ses lunettes, et j'ai fait le portrait. Ah oui, mais j'ai montré le portrait. Ça a dépassé mon orgueil et mes espérances. Alors il y a eu une exposition à la salle des colonnes à Nogent, des peintres de Nogent, comme il y a toujours, et on a exposé ce portrait. Et alors ça a été un tollé. Ça a été une forme de petite gloire naissante qui me dépassait. C'est bien que j'ai osé dire, donc à l'époque j'avais 14 ans, j'ai osé dire ce que je voulais faire. Mais j'ai été aidé parce que j'ai eu des commandes de portraits de la part de beaucoup de notables de nos gens. Dont les maires de l'époque, Monsieur Henri Dourdoigne, Monsieur Robert Brizard, maire et sénateur. J'ai peint également la famille des Chanel, qui étaient les enfants du président Paul de Chanel, qui avait un manoir dans le Perche,
oui.
Et qui aimait beaucoup ce que je faisais. Et puis cela m'a porté à aller plus loin, c'est-à-dire à Paris. Alors à Paris, bien, je suis arrivé, j'avais 16 ans.
Donc vos parents vous laissent partir
Alors, comme j'avais réussi à me faire un petit pécule, parce que ces portraits, on me les payait.
Oui.
Donc, je ne voudrais pas oublier et remercier en même temps également, sans que je n'ai rien demandé, le conseil municipal avait décidé de me donner une somme d'argent pour m'aider. Cette somme, qui était très honorable, m'a permis de s'ajouter au petit magot que j'avais fait et de mettre mes débuts à Paris. Et puis là, bien, les débuts étaient un peu très vite, quand même, la bohème.
Parce que vous avez réussi à trouver une chambre.
Alors, oui, une chambre. Je suis obligé de sourire parce que, est-ce qu'on pouvait appeler ça une chambre? Oui, quand j'étais à l'intérieur, c'était une mansarde. Mais avant de rentrer dans la mansarde, il fallait que je passe dans le grenier. Et alors là, c'est une époque fabuleuse. Si mes tubes de peinture étaient pleins, et c'était l'essentiel, je prenais une baguette de pain tout entière, je la prenais en deux. Et à l'époque, je me tartinais un œuf qu'un seul sur toute sa longueur pour garder le deuxième œuf pour le lendemain. Quand ensuite je me réveillais la nuit et j'avais partagé le pain avec les souris, parce qu'il y avait autant de souris que, etc., etc. Alors, très vite, je me suis présenté, c'était l'instant que le concours a eu lieu aux Beaux-Arts.
Alors là,
j'ai été reçu. J'avais 16 ans.
Oui.
J'étais élève titulaire aux Beaux-Arts. Alors, c'était merveilleux parce que ça m'a donné tout de suite un statut d'étudiant. Les repas universitaires, une bourse, bref, j'étais sauvé, quoi. Et voilà mes débuts de peintre, on peut dire.
Voilà.
Alors, il y a eu des suites, j'ai continué.
Et aux Beaux-Arts, vous avez des amis?
J'ai fait beaucoup, beaucoup d'amis. Il y avait des gens... c'est ça qui est d'ailleurs extraordinaire. C'est au-delà de tout enseignement. Ce sont les jeunes passionnés qu'on peut rencontrer.
Oui, c'est ça, oui.
Ça, c'est très, très intéressant. Hein, j'ai rencontré des gens très bien.
Et vous pouviez...
Il paraît qu'on est tous un cadeau les uns pour les autres, j'y crois.
Mais oui, bien sûr. Et alors, justement, avec vos amis du conservatoire, est-ce que vous peignez ensemble? Comment ça se passe? Parce que j'imagine
mais
que
écoutez,
vous...
je vais vous dire, je n'aurais pas raconté, mais la plupart de mes amis sont devenus prix de Rome.
Oui.
Je peux les nommer, Caron, Jean-Claude, Humbert, Barolier, enfin et d'autres.
Oui.
Ils sont devenus, j'ai même été plusieurs fois à la Valle de la Médicis. Pourquoi je ne suis jamais devenu prix de Rome? Je me suis jamais présenté pour des causes que très vite j'ai rencontrées. On ne passe pas le prix de Rome à 16 ans. Hein, et j'ai rencontré une étudiante aux Beaux-Arts. Et on s'est mariés très vite, et on a eu cinq enfants, enfin on a eu au début de notre mariage 3 enfants, on a eu beaucoup de difficultés, parce que je veux pas un, hein, parce que tout le monde a son lot, mais ils étaient quand même 3 enfants handicapés. Alors j'étais très occupé à cet handicap des enfants, et j'ai peint comme j'ai pu à travers toutes ces vicissitudes.
Oui.
Voilà, le début...
Mais vous êtes tous deux peintres.
Ma femme était peintre, oui. Alors, directement, quand je suis rentré aux Beaux-Arts, l'histoire des portraits que je disais à nos gens s'est perpétuée également à Paris.
Ah oui, vous avez
continué. Oui, la chance de faire des portraits, c'est que ça fait boule de neige, voyez-vous.
Oui.
Hein, les portraits sont accrochés chez les gens, et quand le portrait semble ressemblant et bien peint, qu'il ait les qualités requises, eh bien, ça donne envie aux gens de faire faire leur portrait ou de l'offrir. Alors, j'ai eu le portrait de la femme de l'enfant de, et puis j'ai eu également des gens tels que Monsieur Jacques Reveff, par exemple. Alors, Jacques Reveff, c'est un académicien qui est l'initiateur du franc-lourd. Je ne sais plus exactement dans quelles années. Et voilà, dans ma mansarde, il y avait un couple de gens très bien habillés j'étais rentré, j'étais absent, j'arrive de course. Et que voulaient-ils ? Ils cherchaient, ils avaient fait plusieurs ateliers de peintre pour faire faire le portrait de leurs enfants. Et puis ils avaient vu une grande toile que j'avais peinte de mes camarades un jour de fête en train de boire un pot autour d'une table. Et ils ont dit, mais alors, vous seriez capable de peindre un portrait de famille ? Et oui, et j'ai peint le portrait de famille avec ses enfants de Monsieur Veuf, Madame Veuf, etc.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Pierre Chabin et nous évoquons l'exposition qui va avoir lieu à la salle des colonnes de Nogent-le-Rotrou du 15 au 24 septembre. Alors, dans une première partie, Pierre Chabin a expliqué comment a été sa vie et comment il est entré également à Paris, aux Beaux-Arts. Et puis, à Paris, il a beaucoup peint des portraits, mais aussi il commence à être professeur. C'est bien cela, Pierre Chabin.
Oui.
Donc, vous êtes professeur et vous allez enseigner dans différents lycées, j'imagine.
Alors, j'ai eu une très grande chance d'enseigner dans un lycée technique d'art graphique,
oui,
publicitaire. Alors là, il y avait l'enseignement publicitaire donné par des gens de la publicité, mais il y avait aussi un enseignement de base artistique pour ces jeunes qui avaient besoin de se fortifier dans les bases artistiques. Alors, de ces jeunes, on en parlera après, ceux qui ont fait de la publicité, où on voit maintenant bien leur travail, soit dans les films publicitaires à la télé ou des affiches, c'est leur travail. Mais également, je voulais rappeler surtout tout à l'heure, à propos des portraits, je vais supprimer après, et remercier après mon grand-père. Il a fallu que j'ose refaire un portrait commandé, qu'on me payait, que je réussisse.
Oui, surtout que vous êtes très jeune.
Et là, oui, j'ai 15 ans, 15 ans et demi, je ne sais plus. Et j'ai fait le portrait de M. Lucien Blin, qui était violoncelliste connu et puis le chef de musique de Nogent-le-Rotrou.
Oui.
Et ce portrait a porté tous ses gages de promesses. Et je vais avoir plaisir, parmi les quelques 80 toiles que je compte exposer, d'exposer ce portrait. Voilà. Parce que j'avais 15-16 ans, je ne sais plus, à l'époque.
Voilà. Alors, puisque vous évoquez vos toiles, parlons-en tout de suite. 80 toiles qui vont être exposées à Nogent-le-Rotrou du 15 au 24 septembre, et cela à la salle des colonnes. Et tout le monde connaît la salle des colonnes puisqu'elle se tient à la mairie de Nogent-le-Rotrou. Alors, quels seront les différents portraits ? Est-ce qu'il y aura des portraits ? Est-ce qu'il y aura... Dites-nous un peu comment vous avez voulu que soit cette exposition à Nogent-le-Rotrou.
Bien, effectivement, c'est un travail qui est sur 5 ans. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'anciennes toiles.
Donc, ce sont les dernières toiles.
Pratiquement, ce sont les dernières toiles.
Vous n'avez plus les...
Alors, c'est très complexe à dire. Donc, on est étudiant en beaux-arts.
Oui.
Mais il faut bien savoir une chose. Quand en... dans les années 19e siècle, si vous voulez, ou même avant 14, on rentrait aux Beaux-Arts, il y avait toute une formation connue par laquelle il fallait passer. Si je parle de l'anatomie, par exemple, pour faire les nus, bien, on ne pouvait pas faire de nus académiques, dit, sans connaître l'anatomie, etc.
Oui.
Or, la complexité, l'ambiguïté de notre époque, dite art contemporain, c'est que il n'y a plus les mêmes canons, il n'y a plus les mêmes repères. On peut même nager, faire la brasse couler, mais couler.
Ça, c'est certain.
Et donc, comme un ami, un jour, je me souviens avoir ce jour-là un peu d'esprit, quelqu'un avait déclaré, j'ai rien contre Picasso, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin,
ah oui, dire, on ne peut pas ne pas l'aimer.
Mais un jour, quelqu'un a déclaré, Picasso, qu'est-ce qu'il a ouvert comme porte? Mais c'est exclamé aussitôt, j'ai dit oui, mais que de courant d'air. Vous comprenez, on est à une époque où il est trop facile de faire prendre des vessies pour des lanternes.
Oui, mais enfin...
Alors, l'étoile que j'ai fait, l'évolution quand on est un étudiant aux Beaux-Arts, est très complexe et très difficile parce qu'on est entre jeunes, on veut se battre, on veut découvrir quelque chose de nouveau, on veut... Et tout ça, où ça va? Eh bien, c'est bien difficile à dire. Et mon cas est une évolution où, à un moment donné, j'ai arrêté de peindre.
Ah oui?
J'ai arrêté de peindre pendant un certain temps, pendant 5 ans, j'ai arrêté de peindre. Pourquoi?
Vous étiez en recherche?
Il y a peut-être que je n'avais plus envie de peindre, parce que dans ma peinture, il y avait un peu de tout. Mais j'avais perdu
la spontanéité.
Ce qui était au fond de moi-même étant jeune. Et puis, plus que ça, un matin, je me suis réveillé, j'ai eu envie de brûler la trois quarts de mes toiles. Alors, j'ai fait un grand chambard chez moi, j'ai tout déballé. Et puis, j'ai revu quelques toiles où j'ai compris. Elles me plaisaient. J'ai dit, mais c'est du chemin, ça. Et alors, il y a une petite voix qui m'a dit, mais alors pourquoi tu ne fais pas que ça? Alors, j'ai fermé la porte à tout et j'ai fait que ce qui me plaît. Alors, comme j'ai été professeur, ça a eu un avantage extraordinaire. J'ai eu l'énorme chance, je disais tout à l'heure, d'être dans un lycée technique de dessin. Alors, ça avait deux avantages. J'apportais ma matériel pour nourrir mes enfants, il y en avait 5. Mais par ailleurs, d'échapper à toute contingence commerciale. Je n'étais pas obligé de passer par X ou X ou X marchands de tableaux, ou de soupe, je ne sais plus comment on dit. Hein.
De tableaux.
Mais j'ai fait ce que j'ai voulu. Alors ça, c'est extraordinaire, ce qui me rend complètement responsable de ce que je présente à la salle des colonnes. Alors, mon choix, je me suis écrié il n'y a pas très très longtemps. J'ai 18 ans. Et ce qui est merveilleux, les années passent, mais j'ai toujours 18 ans, je m'explique. Ça y est, actuellement, je fais ce que je rêvais de faire à 18 ans.
C'est-à-dire que vous avez retrouvé votre personnalité?
Absolument. Et j'en suis, j'en récupère de très très grandes joies.
Et justement,
Alors, oui,
je voulais vous dire, qu'est-ce que vous recherchez en fait quand vous peignez?
Alors, avant toute chose, c'est très curieux parce que j'ai très peu de mémoire visuelle et on pourrait croire que je peins de mémoire. J'ai beaucoup peint d'après nature, mais maintenant. Curieusement, les peintures m'apparaissent. Je les vois finies. J'ai des séries de petites images, de pochettes que j'essaie de faire très vite pour mettre l'essentiel de ce que je vois dans mon cerveau. Mais j'appelle ça des esquisses, mais improprement non. Ce sont des synthèses de tableaux finis que je vois. Il y a même des curiosités. Ils me paraissent parfois à l'envers.
Ah.
Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. Je vois des fois des tableaux finis qui, comme un travelling, s'approchent de moi et se mettent à l'endroit quand ils sont près de moi. Et c'est assez curieux.
C'est-à-dire que votre cerveau travaille beaucoup, en fait.
Mon cerveau travaille tout seul et beaucoup.
Voilà.
Et je vois les choses apparaître
alors...
comme ça. Alors, ce que je retiens surtout, qui est à la base de ça, ce sont des émotions. Pas mon émotion, ma vie personnelle, ça me regarde, moi. Mais les émotions que nous avons en commun. Nous avons des émotions en commun. L'artiste, il est, selon moi, l'outil des autres, voyez-vous. Si je lis la jolie description d'un jardin ou d'un grenier, mais donnée par un littéraire, ce que je ne saurais pas faire, j'ai vu que c'était en moi, mais qu'il m'avait aidé à comprendre ce qui était en moi. Voilà, je pense que l'artiste...
Oui, mais je pense qu'il y en est de tous les arts, la peinture, la musique,
tout ça,
littérature nous donne des émotions.
Voilà.
Et vous les ressentez forcément vous-même en travaillant.
C'est ça.
Si je peux dire en travaillant,
ça,
parce que ce n'est pas un travail pour vous, c'est une passion.
Voilà. Mais j'aimerais aussi beaucoup parler, là, tant qu'il nous reste, sur mon enseignement. Par rapport à ce qu'on appelle l'art contemporain.
Oui.
J'ai aimé la vie telle qu'elle m'apparaît.
Oui.
La vie, justement, que nous avons en commun. Et puis après, il y a des recherches contemporaines. Il est impossible d'être professeur pendant près de 40 ans avec des élèves qui vont devenir eux-mêmes des peintres ou des décorateurs,
des professeurs,
etc., sans parler, sans faire des expériences dites d'art contemporain. Si mon travail n'est pas spécifiquement de l'art contemporain dans sa recherche, il n'en est pas moins tout à fait d'accord sur ce que peut...
Alors, je vous interromps parce que il nous reste pas beaucoup de temps et j'aimerais quand même que vous disiez à nos auditeurs ce qu'ils vont pouvoir examiner, voir, apprécier à la salle des colonnes. Alors, je sais qu'il y a de très belles fleurs, mais qu'il y a aussi, moi, ce qui m'émeut beaucoup, ce sont les fermes que vous avez peintes dans cette campagne du Perche.
Oui, ben, je suis percheron.
Oui.
C'est entré en moi. J'aime l'ambiance du Perche.
Oui.
Sa lumière. Je l'ai écrit, je l'ai dit. Si la couleur, c'est l'habit de la peinture, la lumière qui s'en dégage, c'est son âme.
Oui, c'est une très jolie phrase.
Voilà.
Très jolie phrase. Alors... vous pouvez dire, vous avez donc 80 tableaux, vous avez dit, et ils se partagent comment en fait ? Donc des fleurs que vous avez peintes il y a longtemps ?
Bon, alors, tout ce travail remonte à 5 ans pour la plupart. 2-3 toiles peuvent être un peu plus âgées, mais l'ensemble c'est 5 ans de travail. Il y a quelques personnages, mais le portrait que je faisais dans le temps n'existe plus. Simplement parce que j'avais des contingences de commandes et de ressemblances, si vous voulez, par lesquelles il fallait passer et qui paralysaient l'acte du peintre et sa liberté, voyez-vous.
Eh bien, je vous dis un grand merci, Pierre Chabin, parce que je crois que nous aurons vraiment envie d'aller assister à ce vernissage et à cette exposition qui aura lieu, je le rappelle, à la Salle des Colonnes, à Nogent-le-Rotrou, du 15 au 24 septembre. Chers auditeurs, vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Pierre Chabin, merci.